Bonjour, je suis Olivier Aymon. Dans l'épisode précédent de Mars, la nouvelle Odyssée, nous avons passé en revue notre rapport avec cette planète, comment elle nous a toujours fascinés, interrogés. Le décor a été planté, celui d'une planète sœur, d'une planète miroir, vue depuis la Terre. Il est temps de s'en rapprocher et d'embarquer à bord de tous ces engins, orbiteurs, atterrisseurs, rovers qui se sont succédés autour et sur Mars au cours des 50 dernières années, jusqu'au plus récent, à la conquête technique de Mars. Mais au fait, pourquoi elle ?
Ça a commencé quand j'étais petit, quand ma maman m'emmenait à la nuit des étoiles, où on cherchait Mars l'été dans le ciel, où après on a suivi les atterrissages de Phoenix, des Mars Exploration Rover. Et puis c'est devenu une passion et j'ai voulu m'orienter vers l'exploration spatiale et plus particulièrement l'exploration de Mars. C'est comme ça que j'ai débuté ma thèse et donc ça a été vraiment une idée fixe qui m'a suivi et j'espère que ça va continuer et que je pourrais continuer à explorer Mars, puis aussi les autres planètes du système solaire qui m'intriguent aussi. Je m'appelle Baptiste Schied, je suis docteur en planétologie et je suis jeune chercheur postdoctorant à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie à Toulouse et à l'ISAE Supaéro. J'ai travaillé pendant ma thèse sur l'acoustique martienne.
Mars, la nouvelle Odyssée, épisode 2, les premières approches.
Les Américains, ils disent que FAIL, c'est l'acronyme de First Attempt in Learning. Effectivement, il faut échouer pour comprendre comment ça marche et faire mieux par la suite. Il y a eu beaucoup d'échecs dans l'exploration de Mars. À peu près 50 missions envoyées vers Mars, la moitié ont été des succès. Mais alors beaucoup de succès qui ont conduit à notre connaissance actuelle de Mars et des processus qui ont mené à Mars qu'on connaît maintenant.
Alors on va parler du présent, mais on va rester d'abord un peu dans le passé. On est donc dans les années 60, début des années 60. Comme pour le reste des programmes d'exploration spatiale, on est dans la compétition, les Américains d'un côté, les Soviétiques de l'autre, et ce sont les Américains qui gagnent.
Alors, ce sont les Américains qui gagnent sur les premiers survols de Mars. Effectivement, le premier survol de Mars, il a eu en 65 avec Mariner 4. Alors, on ne se met pas en orbite de Mars. On passe à côté de Mars à quelques milliers de kilomètres pendant quelques instants qui nous permettent de prendre des photos de la surface, faire quelques relevés atmosphériques. Et c'est ces Américains, effectivement, avec Mariner 4 qui gagnent cette course-là. Mariner 4, en survolant Mars, prend des photos de la surface de l'hémisphère sud et voit une surface de Mars très cratérisée, un peu comme la Lune, et se disent « Ah, on n'espérait pas les canaux qui imaginaient ce qui apparaît il y a avant », et voient une surface désertique, morte, comme la Lune. Donc finalement, c'est pas vraiment ce qu'on espérait, en tout cas en survolant Mars. Puis après, quelques années plus tard, en 71, Mariner 9, encore une sonde américaine, sera la première à se mettre en orbite autour de Mars, donc permettant d'observer Mars pendant plusieurs mois et d'avoir une couverture presque globale de la surface de Mars. Et là, on a pu observer beaucoup plus de diversité géologique. On a observé des plateaux très cratérisés, très anciens dans le sud de la planète. On a observé des volcans, on a observé des plaines beaucoup plus jeunes. Puis également, on a observé beaucoup de traces laissées par l'eau, des lits de rivières, des anciens lacs, des dépôts sédimentaires qui nous ont fait penser que Mars, par le passé, a abrité de l'eau liquide en sa surface.
Donc finalement, assez vite dans l'exploration, on a une connaissance assez vaste de ce qu'est Mars, de sa géologie, enfin de sa géographie en tout cas, de sa morphologie.
Oui, exactement. On remarque notamment une grosse différence entre l'hémisphère nord de Mars, qui est relativement jeune, avec très peu de cratères. On arrive à dater l'âge de la planète, des surfaces planétaires, en comptant le nombre de cratères. Plus la surface elle a été exposée longtemps dans le temps, plus elle est cratérisée. Alors c'est comme ça qu'on remarque que l'hémisphère nord de Mars est très jeune, très peu de cratères. Alors qu'au contraire, un hémisphère sud, plus haut en altitude, beaucoup plus vieux, avec de nombreux cratères. Et c'est dans cet hémisphère sud qu'on remarque énormément de traces laissées par l'eau, ces lits de rivière, ces lacs, ces dépôts sédimentaires.
C'est formidable. On se dit, il y a un algorithme pour calculer en fonction du nombre de cratères. On connaît l'âge à peu près à quelques millions d'années près.
Et oui, notre très bonne référence pour ça, c'est la Lune. La Lune, on connaît exactement l'âge des roches lunaires en y étant allé, en ayant rapporté des échantillons de la Lune. Et puis on peut également, sur la Lune, mesurer le nombre de cratères. Grâce à ça, on arrive à calibrer l'âge d'une surface en fonction du nombre de cratères qu'on y compte.
Alors on l'observe, les années 60, début des années 70, puis à un moment on se dit, il faut aller dessus. Et donc là, encore une fois, les Américains qui prennent un drakkar.
Alors, les Américains et aussi les Soviétiques. Les Soviétiques n'étaient pas à la traîne dans la course à la surface de Mars, puisque forcément, après l'avoir observé depuis l'orbite, on n'a pas trouvé les signes de vie qu'on espérait depuis l'orbite. Alors on s'est dit, on va plutôt aller les chercher à la surface. Ça représentait vraiment un nouvel essor et l'envie de se poser à la surface de Mars pour l'explorer in situ. Donc les Soviétiques sont en fait les premiers à s'être posés sur Mars avec la sonde Mars 3. L'atterrissage s'est bien passé, mais la sonde...
Mais on n'a pas d'image.
On n'a pas d'image. La sonde n'a pas retourné de données à l'orbiteur. C'est finalement les Russes qui ont fait, les Soviétiques qui ont fait le premier atterrissage en douceur sur Mars. Mais le premier succès, la première sonde ayant retourné le premier panorama de Mars, c'est les sondes américaines Viking qui se sont posées sur Mars en 76.
Elles sont deux, hein. Elles partent ensemble quasiment.
Alors elles partent quasiment ensemble, deux sondes quasiment les mêmes qui se sont posées dans deux endroits différents et chaque mission était munie d'un lander qui s'est posé à la surface, donc une sonde fixe posée à la surface, et d'un orbiteur pour observer la planète dans son ensemble et puis également relayer les données envoyées, prises par...
Et là, on voit une image qui apparaît tout doucement sur les écrans. Évidemment, c'est pas la vitesse actuelle d'affichage des images, mais c'est quand même un moment extraordinaire.
Bah, j'imagine que ça doit être un moment incroyable de voir cette première image de Mars. Alors effectivement, je pense que les attentes étaient sans doute plus grandes que ce que les images ont retourné, mais ça reste quand même incroyable. Les premiers panoramas retournés par Viking 1, le premier lander à cette posée à la surface de Mars, montrent une surface très désertique, avec de nombreux blocs rocheux autour du lander, et puis avec des dunes, du sable, donc une surface très désertique. Et donc, les missions Viking, à la base, étaient les premières missions de biologie envoyées sur Mars. Dès les années 76, le but des missions Viking était non pas de rechercher la vie sur Mars, mais de la caractériser. C'est ça qui est incroyable, c'est une expérience biologique à bord des missions Viking pour rechercher, caractériser la vie biologique à la surface. En fait, les premiers relevés chimiques montrent en fait une surface complètement stérile. En fait, la surface de Mars, elle est douchée par les rayons UV depuis des milliards d'années. Sur Terre, ils sont absorbés dans l'atmosphère. Sur Mars, la faible atmosphère fait que les rayons UV arrivent directement à la surface et donc stérilisent complètement la surface.
Alors on perd pas espoir, on continue. Il y a d'une certaine manière une petite pause quand même dans les fins des années 70, début des années 80. On sait pourquoi ?
Bah justement, en raison des visions Viking, alors peut-être parce que les résultats n'étaient pas à la hauteur de nos attentes, ou peut-être plutôt, je pense, parce qu'il a fallu du temps pour digérer ces données et comprendre comment bâtir une nouvelle stratégie de l'exploration de Mars avec une recherche plutôt graduelle de la vie en passant par différentes étapes et notamment la recherche de l'eau avant directement d'aller rechercher la vie. Et donc la surface de Mars, elle a été délaissée pendant quelques 20 ans après les missions Viking. Puis les Américains se sont reposés sur Mars à la fin des années 90, en 97, avec la sonde Pathfinder qui a envoyé le premier robot mobile à la surface de Mars. C'est le robot Sojourner.
Jusque-là, on ne bougeait pas et là, on met des petits trous.
Exactement. En fait, on s'est rendu compte grâce au robot Sojourner. Alors, c'était un tout petit robot à la taille d'un micro-ondes, 10 kilos seulement, avec un seul instrument scientifique. Mais ça nous a permis, ce robot-là, de se montrer que le déplacement, déjà, à la surface de Mars était possible. C'était une démonstration technologique incroyable. Et aussi que d'aller regarder les roches à l'échelle régionale permettait de mettre en évidence une diversité de ces roches. Et donc, il était très important de pouvoir se déplacer à la surface de Mars.
Sojourner, vous venez de le dire, la taille d'un micro-ondes, boîte à chaussures. On va en reparler, mais aujourd'hui, on est sur la taille d'une voiture.
On est plutôt sur la taille d'une voiture. On a multiplié par 100 la masse de Sojourner, avec Curiosity, qui fait maintenant près d'une tonne. Sojourner s'est déplacé sur quelques centaines de mètres. Curiosity se déplace actuellement. Au compteur, on est à une vingtaine de kilomètres. Donc effectivement, on peut changer d'ordre de grandeur.
Vingtaine de kilomètres sur 9 ans
Sur 9 ans de mission.
On voit bien, donc la technologie s'améliore évidemment au fur et à mesure des années. D'abord, on passe pas loin, on se met en orbite, on se pose, on peut se déplacer. On voit que les choses avancent et en même temps, ça reste extrêmement compliqué d'envoyer un engin et de se poser et de pouvoir le faire se mouvoir et de faire de la science sur place.
Oui, exactement. En fait, c'est une complexité croissante et on le voit, hein, Sojourner, 10 kilos, les Mars Exploration Rover dans les années 2000, 100 kilos multiplié par 10, et Curiosity, Perseverance, on multiplie encore par 10 la masse, près d'une tonne. À chaque fois, des instruments de plus en plus sophistiqués et pour arriver à Curiosity avec des capacités analytiques qui sont incroyables pour avoir été envoyé à la surface de Mars. Mission Curiosity s'appelle Mars Science Laboratory parce qu'à bord de Curiosity, on a deux instruments qui sont de vrais laboratoires. On prélève un échantillon à la surface de Mars grâce à un bras robotisé et on l'amène dans ces laboratoires pour l'étudier dans le corps du rover et faire des analyses incroyablement performantes.
Et tout ça à plusieurs dizaines de millions de kilomètres de la Terre, dans un environnement pas forcément très sympa. Donc une vraie performance.
Et exactement, vraiment, vraiment quelque chose de très performant. Alors, envoyer des robots sur d'autres planètes, ça a été fait sur la Lune, les Soviétiques l'ont fait sur la Lune, ces robots étaient téléguidés. Parce qu'effectivement, sur la Lune est si près de la Terre qu'on peut encore les piloter en
Donc
direct.
On a quelqu'un dans une salle avec un joystick et il peut le bouger.
Sur Mars, c'est pas possible, en raison du délai des transmissions des informations. Donc on est obligé, pour commander nos rovers sur Mars, de leur envoyer un plan pour la journée. Quand il se réveille, le rover est en automatique et exécute ce que lui ont demandé les scientifiques la veille.
Donc pendant la nuit, les scientifiques, ils lui envoient un petit programme pour lui dire « demain, tu nous fais ça ?»
Exactement. Quand le robot se réveille, il reçoit nos instructions. Il fonctionne toute la journée en automatique. Alors de temps en temps, quand il voit un satellite passer au-dessus, il lui renvoie des données pour que nous, on les récupère au plus vite. Et puis, il exécute son plan d'opération pour la journée.
Bon, on continue dans cette exploration, on en a déjà dit un mot. Curiosity 2012, vous vous en souvenez ?
Alors, moi, j'étais
L'atterrissage.
Alors moi j'étais encore étudiant, donc je l'ai vécu à la télé, sur YouTube, c'était incroyable. Et puis ce système d'atterrissage qui était utilisé pour Curiosity, cette grue qui descend le rover sur un treuil à la surface, c'est de la science-fiction, c'est incroyable. Quand on voit les vidéos sur internet, moi je me dis c'est pas possible, ça peut pas marcher. Là je revois les mêmes vidéos pour Perseverance et maintenant que je suis impliqué dans la mission, je me dis c'est pas possible, ça peut pas marcher. Et là ça fait monter la pression quand même, mais c'est vraiment quelque chose d'incroyable, je trouve, de faire cet exploit sur une autre planète. C'est de la science-fiction.
Donc 2012, vous êtes spectateur, oui. Et rapidement vous devenez acteur.
Et exactement, en fait, motivé par la passion, j'ai eu mes premiers cours de planétologie par Sylvestre Maurice quand j'étais étudiant. Et là, je me suis dit, j'ai envie de bosser sur ce projet. Et donc, j'ai réussi à me faire une petite place et donc démarrer une thèse sur le successeur de Curiosity, Perseverance, qui se posera cette année, 18 février, sur Mars.
Bon, Sylvestre Maurice, on va parler avec lui dans un prochain épisode de Mars, la nouvelle odyssée, notamment de ce Perseverance. Restons encore un instant sur Curiosity, puisque vous travaillez avec l'un des instruments, et l'un des instruments dont Sylvestre Maurice est le papa, un rayon laser, une caméra pour étudier la roche, la composition de la roche.
Exactement, alors c'est l'instrument ChemCam qui permet de faire des analyses chimiques des roches à distance. Alors ça a été une révolution finalement dans l'exploration de Mars, parce que ChemCam nous permet très rapidement d'analyser des roches qui se situent dans un rayon de 4 à 7 mètres autour du rover. Donc on peut analyser de façon très rapide toutes les roches à distance, d'avoir de donner leur composition chimique. Et donc ChemCam, de ce point de vue-là, a révolutionné l'exploration de Mars parce qu'il permet de reconnaître à distance et de façon très rapide les roches d'intérêt. Et donc c'est un laser de puissance focalisé sur la roche qui fait monter une toute petite surface de roche, quelques 300 microns de diamètre, plus de 8000 degrés. Alors ça la chauffe, ça va créer une étincelle, un plasma, et en analysant la lumière de ce plasma, on arrive à remonter à la composition chimique de la roche. Il y a tant d'aluminium, il y a tant de calcium, il y a tant de strontium, et qui donc nous permet de raconter l'histoire géologique de Mars, à travers la chimie.
Il y a eu des découvertes importantes ?
Alors oui, la mission Curiosity, peu après son atterrissage, a pu montrer que le cratère de Gale était un environnement habitable il y a plus de 3,5 milliards d'années.
Le cratère, c'est là où se trouve Curiosity.
Exactement. Et donc, le cratère de Gale, Yellowknife Bay, l'endroit dans lequel s'est posé Curiosity, était un environnement fluvio-lacustre, donc un ancien delta habitable, puisque toutes les conditions étaient réunies pour que cet environnement soit habitable. Donc, on avait de l'eau liquide qui a coulé pendant un temps suffisamment long, une eau potable, j'allais dire, avec un pH neutre, et les éléments chimiques nécessaires, on les appelle les schnops, carbone, hydrogène, azote, oxygène, phosphore et soufre, nécessaires à l'habitabilité sur Mars.
Donc on a un milieu qui peut permettre l'émergence d'une forme de vie.
Exactement. Maintenant, forcément, la prochaine étape, c'est d'aller voir s'il y a des traces de vie passées à la surface de Mars. Et c'est l'objectif de la mission Perseverance.
Persévérance, c'est donc le robot suivant. Il y a une logique, évidemment, dans tout ça. On essaie d'avancer dans l'histoire de la connaissance et dans nos connaissances. Et alors là, vous êtes partie prenante dès le départ, puisque à nouveau, il va y avoir caméra et ce fameux laser, alors amélioré, il va être plus performant.
Alors l'instrument ne s'appelle plus ChemCam, mais SuperCam, une version améliorée de ChemCam. Alors on prend les mêmes fonctionnalités de ChemCam, donc l'ablation laser pour nous donner la composition chimique élémentaire des roches, et puis d'autres techniques ajoutées pour nous donner cette fois-ci l'information minéralogique. Comment les atomes sont agencés entre eux, de quels minéraux on observe. Et puis, une dernière spécificité, un microphone qui a été ajouté à bord de Supercam, qui sera, on l'espère, le premier microphone à fonctionner à la surface de Mars, puisque jamais aucun son n'a été entendu à l'heure actuelle à la surface de Mars.
Aujourd'hui, on a eu de l'image, on n'a eu aucun son.
L'ouïe n'a jamais été utilisée sur Mars.
Ça veut dire qu'avec ce micro, on va avoir le son exact de ce qui se passe sur Mars, dans ce cratère G0 qui va être l'endroit où Persévérance, le rover, va se poser.
Exactement. Il a plusieurs objectifs scientifiques, ce microphone. D'une part, écouter justement l'ambiance sonore de G0, alors principalement le vent, le mouvement des grains à la surface, puis également les opérations de notre rover, quand il va rouler, quand il veut faire des opérations de forage, on va pouvoir écouter ces différentes opérations. Et puis, lorsque le laser de Supercam ablate la roche pour mesurer sa composition chimique, cette petite étincelle qui va se créer va faire comme un claquement de doigts. Ce claquement de doigts, on va pouvoir l'écouter avec le microphone pour obtenir des informations sur les propriétés physiques des roches. Est-ce que cette roche, elle est dure? Est-ce que cette roche, elle est molle? Et ça, ça va nous apporter des informations supplémentaires pour caractériser les roches qu'on va rencontrer à la surface de Mars.
Donc le son est aussi un outil de science?
Le son est un outil de science. Alors, le son, comment il se propage à la surface de Mars? Pour l'instant, on n'a pas de données expérimentales, mais on sait le simuler en laboratoire. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il y a plusieurs différences entre la propagation du son sur Mars et la propagation sur Terre telle qu'on la connaît. Par exemple, on a des différences sur la vitesse du son. Sur Mars, le son il se propage un petit peu moins vite que sur Terre. Finalement, cette différence-là, on ne la percevrait pas. Peut-être que le feu d'artifice, on l'entendrait un peu plus tard sur Mars que sur Terre, mais ça serait quelque chose qui ne serait pas perceptible. La vraie différence, elle vient dans la composition de l'atmosphère martienne, qui est composée à 96% de dioxyde de carbone. Et la molécule de dioxyde de carbone, elle vibre d'une telle façon qu'elle va absorber tous les sons aigus. Donc tous nos sons aigus, quand nous parlerons, auront l'air beaucoup plus graves sur Mars que sur Terre. Et ce qu'on n'a pas mentionné précédemment, c'est la basse pression aussi sur Mars. On a très peu d'atmosphère sur Mars. L'atmosphère est très fine, 6 millibars, contrairement à 1000 millibars sur Terre, donc plus de 100 fois moins dense sur Mars. Et donc, une source sonore, par exemple un haut-parleur, va avoir plus de mal à mettre en mouvement l'atmosphère, à générer une onde de pression. Et donc, de ce fait, tous les sons sur Mars s'entendront 20 décibels moins fort sur Mars que s'ils étaient produits sur Terre. En fait, écouter des sons sur Mars, et écouter une conversation sur Mars, si on avait cette même conversation sur Mars, c'est comme si on s'entendait à travers un mur. On arrive à simuler des atmosphères martiennes en laboratoire, ici, à l'Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie, puis également au Danemark. L'université de Aarhus, au Danemark, a une soufflerie martienne, alors c'est un bus martien, un tunnel martien, de 11 mètres de long, dans lequel on peut mettre une pression de CO2 de 6 millibars pour reproduire l'atmosphère martienne. Donc c'est un environnement qui est parfaitement adapté à des études expérimentales de l'acoustique en atmosphère martienne.
Et donc, ça sera la première fois qu'on entendra nos robots sur une planète
Exactement.
Autre.
Ça sera les premiers sons interplanétaires. Alors, pas tout à fait, les premiers sons interplanétaires. Des microphones ont déjà été envoyés à bord des missions soviétiques Venera sur Vénus, qui ont opéré pendant quelques minutes à la surface, à repérer des instruments à la surface de Vénus. Comme ça sera les premiers sons interplanétaires audibles, entendus à la surface de Mars.
Et ça, c'est pour les mois qui viennent.
Ça, c'est pour les mois qui viennent. Dès février, dès les premiers jours à la surface de Mars, on va allumer le microphone.
Bon, écoutez, c'est vraiment passionnant. Il va y avoir plein de belles choses qui vont se passer à bord de ce Persévérance et des missions suivantes, parce que là, c'est juste un début de carrière pour vous.
Je l'espère, j'aimerais vraiment continuer dans cette voie. Notamment, j'aimerais beaucoup m'intéresser à Titan. Alors, Titan, un satellite de Jupiter, qui a une atmosphère beaucoup plus favorable à la propagation du son, pour rester dans un domaine purement acoustique, une atmosphère de 1,3 bar, donc quasiment la pression de la Terre, d'azote, de méthane, où le son se propage beaucoup mieux. On a dit sur Mars que tous les sons s'entendraient 20 décibels moins fort sur Mars que sur Terre. Sur Titan, c'est l'inverse. Tous les sons s'entendraient 10 décibels plus fort sur Titan que sur Terre.
Et ça, c'est à quelle échéance?
Cette mission, elle est prévue d'arriver dans le système saturnien aux alentours des années 2035. J'espère en tout cas que l'exploration acoustique du système solaire, elle ne fait que débuter avec Mars. On a montré l'intérêt scientifique d'envoyer des microphones sur Mars. Ainsi, on a montré l'intérêt scientifique d'envoyer des microphones sur d'autres planètes. Et j'espère que ça va se poursuivre, que les prochaines missions Vénus embarqueront des microphones, que Dragonfly embarquera un microphone. Vraiment, je l'espère.
Bon, c'est pas moi qui vais vous dire qu'un micro, c'est pas important dans la vie. Merci beaucoup.
Merci à vous.
« Voilà, donc une cinquantaine d'années de conquête martienne et désormais de nouveaux robots prêts à prendre la relève, avec de nouveaux acteurs aussi, la Chine notamment. Nous verrons cela dans le prochain épisode de Mars, la nouvelle Odyssée.